Madame Clémence reprend-elle un peu ? Demanda Tholoméie à Bouville. Elle pleure moins, répondit le curateur, ou plutôt elle montre moins ses pleurs, comme s'il lui coulait tout droit dans la gorge. Mais elle reste durement ébaubie. Et puis la chaleur d'ici ne vaut rien dans son état, elle a souvent des défaillances et des tournements de tête. Ainsi la reine de France est à côté, pensait Marie avec une intense curiosité. Peut-être vais-je lui être présentée ? Oserais-je lui parler de Guccio ? Elle assista ensuite à une longue conversation à laquelle elle ne comprit que peu entre le banquier et l'ancien grand chambellan. À certains noms prononcés, ils baissaient la voix, et Marie se défendait d'écouter leurs chuchotements. Le comte de Poitiers, arrivant de Lyon, était annoncé pour le lendemain. Bouville, qui avait souhaité si fort ce retour, ne savait plus maintenant s'il devait s'en féliciter. Car Monseigneur de Valois avait décidé de se porter immédiatement à la rencontre de Philippe, en compagnie du comte de la Marche, et Bouville montra à Tholoméie par une fenêtre qui donnait sur les cours les préparatifs de ce départ. De son côté, le duc de Bourgogne, arrivé de Dijon, faisait monter la garde par ses propres gentilshommes autour de sa nièce, la petite Jeanne de Navarre. Un mauvais vent de révolte soufflait sur la ville, et cette rivalité de régents pouvait aboutir aux pires calamités. De l'avis de Bouville, on aurait dû nommer la reine Clémence régente, et l'entourer d'un conseil de la couronne composé de Valois, de Poitiers et d'Eudes de Bourgogne. Si intéressé qu'il fût par les événements, Tholoméie, à plusieurs reprises, tenta de ramener Bouville à l'objet précis de sa démarche. « Certes, certes, nous allons bien veiller sur cette damoiselle, » répondait Bouville, qui revenait aussitôt à ses inquiétudes politiques. Tholoméie avait-il des nouvelles de Lyon ? Le chambellan avait pris familièrement le banquier par l'épaule et lui parlait presque joue à joue. « Comment ? Guccio, muet en conclaviste, était enfermé avec Dehaze ? Ha ha ha, l'habile garçon !» Tholoméie pensait-il pouvoir communiquer avec son neveu ? Si jamais il en recevait des nouvelles, on avait moyen de lui en transmettre, qu'il le fît savoir. Ce truchement pourrait être fort précieux. Quant à Marie... « mais oui, dit le curateur. Madame de Bouville, qui est personne de tête et fort agissante, a tout arrangé à votre convenance. Soyez sans alarme. » Il appela son épouse, petite femme maigre, autoritaire, au visage marqué de rides verticales et dont les mains sèches ne restaient jamais en repos. Marie, qui s'était sentie jusque-là en parfaite sécurité, éprouva aussitôt de la crainte et de l'anxiété. « Ah, c'est vous dont il faut abriter le péché, » dit Madame de Bouville en l'examinant d'un œil sans bienveillance. « Vous êtes attendue au couvent des Clarisses. L'abbesse montrait peu d'empressement, et moins encore quand je lui ai dit votre nom, car elle est, par je ne sais quel lien, de votre famille, et votre conduite ne lui plaît guère. Mais enfin !» La faveur dont jouit messire Hugues, mon époux, a pesé son poids. J'ai crié un peu, le logis vous sera donné. Je vous y conduirai avant la nuit. » Elle parlait vite, et il n'était pas facile de l'interrompre. Quand elle reprit son souffle, Marie lui répondit avec beaucoup de déférence, mais aussi beaucoup de dignité dans le ton. « Madame, je ne suis point en état de péché, car j'ai bien été mariée devant Dieu. »« Allons, allons, » répliqua Madame de Bouville. « Ne faites pas regretter les bontés qu'on a pour vous. Remerciez donc ceux qui s'emploient à vous aider plutôt que de jouer la faraude. » Ce fut Tholoméie qui remercia au nom de Marie. Lorsque celle-ci vit le banquier sur le point de partir, un grand désarroi la jeta dans les bras de celui-ci, comme s'il avait été son père. « Faites-moi savoir le sort de Guccio, » lui murmura-t-elle à l'oreille, « et faites-lui savoir que je me languis de lui. » Tholoméie s'en alla, et les Bouville disparurent également. Pour tout l'après-midi, Marie demeura dans leur antichambre, n'osant bouger et n'ayant d'autre distraction que d'assister, assise dans l'ébrasement d'une fenêtre ouverte, au départ de Monseigneur de Valois et de son escorte. Le spectacle pour un moment la sortit de son chagrin. Elle n'avait jamais vu si beaux chevaux, si beaux harnais, si beaux vêtements, et en si grand nombre. Elle pensait aux paysans de Crécy vêtus de loques, les jambes entourées de bandes de toile, et se disait qu'il était bien étrange que des êtres qui avaient tous une tête et deux bras, et tous créés par Dieu à son image, puissent être de races si différentes, si l'on en jugeait par le costume. De jeunes écuyers, voyant cette fille de grande beauté occupée à les regarder, lui adressèrent des sourires et même lui envoyèrent des baisers. Soudain, ils s'empressèrent autour d'un personnage tout brodé d'argent qui semblait en imposer fort et prenait des airs de souverain. Puis la troupe s'ébranla et la chaleur de l'après-midi s'appesantit sur les cours et les jardins du palais. Vers la fin du jour, Madame de Bouville vint chercher Marie. Accompagnée de quelques valets et montée sur des mules scellées de bas à la planchette, où l'on s'asseyait de côté, les pieds posés sur une petite planche, les deux femmes traversèrent Paris. Elles virent des attroupements un peu partout, et même aperçurent la fin d'une rixe qui avait éclaté sur le seuil d'une taverne entre les partisans du comte de Valois et des gens du duc de Bourgogne. Les sergents du guet à coups de masse rétablissaient l'ordre. « La ville est chaude, » dit madame de Bouville. « Je ne serais point surpris si la journée de demain nous amenait l'émeute. » Par le mont Sainte-Geneviève et la porte Saint-Marcel, elles sortirent de Paris. Le crépuscule tombait sur les faubourgs. « Du temps que j'étais jeune, » dit madame de Bouville, « on ne voyait guère ici plus de 20 maisons. Mais les gens ne savent plus où se loger en ville et construisent sans cesse sur les champs. » Le couvent des Clarisses était entouré d'un haut mur blanc qui enfermait les bâtiments, les jardins et les vergers. On distinguait auprès d'une porte basse une tour ménagée dans l'épaisseur de la pierre. Une femme qui marchait le long de la muraille, la tête couverte, s'approcha du tour et y déposa rapidement un paquet entortillé de linge. Puis elle fit tourner le tambour du bois, tira la cloche et, voyant qu'on approchait, s'enfuit en courant. « Qu'a-t-elle fait ? » demanda Marie. « Elle vient d'abandonner là un enfant sans père, » répondit madame de Bouville en regardant Marie d'un air sévère. « C'est ainsi qu'on les recueille. Allons, marchez !» Marie pressa sa mule. Elle pensa qu'elle aurait pu, elle aussi, être forcée un jour proche de déposer son enfant dans un tour, et considéra que son sort était encore bien enviable. « Je vous fais merci, madame, de prendre si grand soin de moi, » murmura-t-elle les larmes aux yeux. « Ah, enfin vous prononcez une bonne parole, » répondit madame de Bouville.